Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNBA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Laurine Melka, professeure d'économie à Tourcoing, et deux fois par mois, je m'attaque franco avec vous à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine.
Salut Laurine.
Salut Étienne.
Alors, comment ça va en cette période de confinement ?
Bah écoute, ça fait quoi, 10 jours là déjà ? Une dizaine de jours qu'on est confinés, bah on jongle avec la continuité pédagogique à assurer. Hein. Moi j'ai 8 classes, je te raconte pas le nombre de mails. Ouais. Et puis l'intendance des gamins à la maison, leur faire l'école, alors qu'on est deux à télétravailler. Bon après, j'ai vraiment l'impression d'être une privilégiée. Je sais que j'ai une maison, un jardin. Je repense à tous mes potes que j'arrête pas d'appeler, ceux qui sont à Paris tout seuls, dans des petites surfaces avec des gosses en bas âge. Les gens qui sont avec des personnes fragiles psychologiquement, qui ne peuvent pas sortir.
Je crois qu'on est un peu tous dans la même situation. On est confinés, mais on est encore liés les uns aux autres grâce aux technologies, grâce au téléphone, etc. Mais c'est aussi pour ça que je voulais t'appeler. C'est-à-dire qu'on sait tous les deux qu'on est un peu privilégiés d'être prof, d'avoir encore un salaire, d'avoir encore du travail avec nos élèves par correspondance. Mais c'est vrai qu'on a un peu plus cette possibilité d'avoir un peu de distance par rapport à ce qui se passe et de pouvoir en discuter tous les deux et de proposer aux auditeurs un peu... une réflexion économique sur les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Et c'est ce qu'on va faire un peu dans cet épisode inédit de Splash. Donc, on voit déjà les premiers effets de cette crise sanitaire, c'est que l'activité économique a considérablement diminué. Hein. J'ai vu un article ce matin dans Le Monde, on voit qu'il y a moins 35% d'activité économique selon l'INSEE. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus. Déjà, certaines personnes ont été licenciées, il y a du chômage technique. Les premières entreprises qui ont été immédiatement touchées par ce confinement général, il faut le dire, ce sont les petites entreprises, les PME, les TPE, qui ont été obligées de fermer boutiques, de fermer leurs magasins, de fermer leurs commerces. Et qui ont une diminution assez rapide de leurs ventes, de leur chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes, en tout cas pour les PME.
Il y a évidemment les commerçants qui ont fermé boutiques et qui avaient déjà été impactés avec les grèves. Et c'est compliqué pour eux, les professions libérales, les restaurateurs. Et voilà, tous ces gens-là, ils n'ont carrément plus d'activité. Il faut rappeler que les TPE, c'est les entreprises de moins de 10 salariés. C'est quand même 20% en France de l'emploi salarié. Après, tu as les PME. Les PME se sont mises en position latérale de sécurité pour beaucoup d'entre elles, même des start-up, dans des secteurs qui sont vraiment touchés. On peut dire que même Nouvelles Écoutes, ici, on est impacté, il y a des reports d'investissement. Et si tu prends les TPE et les PME, on peut le rappeler à nos auditeurs, c'est 99,8% des entreprises en France. Donc, c'est vraiment un maillon essentiel du tissu économique.
Oui, donc il y a effectivement ces mesures de chômage partiel, de licenciement, parce que évidemment les rentrées d'argent sont beaucoup plus faibles, alors qu'il y a beaucoup de frais à payer. Il y a encore des cotisations à payer, des salaires s'ils ont encore des salariés, il y a des échéances de factures pour les fournisseurs. Et donc, il y a de graves problèmes de trésorerie pour de très nombreuses PME encore aujourd'hui.
Alors, il y a des mesures qui ont été mises évidemment sur la table par le gouvernement. Vous savez, c'est 45 milliards qui ont été annoncés avec un fonds de solidarité pour les TPE. On a parlé, je crois, de 1 500 € d'aide pour les indépendants, le report de charges, donc le financement du chômage partiel. Et puis, la mise en place d'une garantie d'État pour les prêts accordés aux entreprises. Et là aussi, pour les PME, à hauteur de 300 milliards d'euros. Alors, garantie à 90%. C'est-à-dire que les banques, elles prennent presque plus de risques. Elles sont à 10%. Mais bon, si la situation dure, ça va être clairement quand même tendu.
Les grandes entreprises sont pour l'instant pas encore aussi touchées que les PME, bien sûr. Elles ont plus de ressources, plus de fonds propres. Moi, j'ai appelé une amie qui travaille dans les assurances, et là, comme client des grandes entreprises. Et ce qu'elle me raconte, c'est qu'elle est totalement sidérée par le fait que les grandes entreprises ne sont absolument pas préparées pour ce genre de crise. Alors, c'est pas facile, évidemment, de prévoir une crise sanitaire, mais même une crise qui peut être bancaire ou une crise qui peut être boursière, il n'y a pas de protocole prévu ou d'équipe prévue pour savoir quoi faire dans ces cas-là. Et je trouve ça effectivement très, très, très alarmant, très sidérant de voir que malgré les crises qui peuvent se répéter, comme la crise subprime en 2008 ou cette crise sanitaire, les grandes entreprises ne mobilisent pas un peu de ressources, je ne sais pas, une petite équipe de 20 personnes, un peu d'argent, pour que ces personnes-là préparent des protocoles, prépare des dispositifs en cas de crise. Et je trouve ça très étonnant, en fait.
Bon, après, pour placer aussi dans le contexte, au départ, même le corps médical n'a pas vu le choc venir. Et les grandes entreprises, elles ont été aussi impactées à plusieurs titres. Côté offre, on peut rappeler que le Covid-19, il est apparu fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan, dans une région où beaucoup de grandes firmes ont des sites de production. Et début février, moi, j'avais discuté, par exemple, avec mon voisin. Alors, il a un poste dans une gros poste dans une usine de produits agroalimentaires qui a aussi 3 sites de production, justement, en Chine, une au centre du pays et 2 dans le sud. Et il m'a raconté que même là-bas, au départ, il y avait une certaine incrédulité. Et avant la mise en confinement officiel, les autorités chinoises leur ont dit « Bon, bah, vous n'êtes pas dans une activité prioritaire pour nous, donc on vous conseille d'arrêter de produire. Maintenant, c'est à vous de voir. » Tout en leur disant qu'évidemment, bah, s'ils avaient des malades dans les usines, la faute leur serait imputée. Et du coup, ils ont pris la décision de fermer les sites. Il y a beaucoup de secteurs qui se sont effondrés. Mais si tu prends par exemple l'agroalimentaire, bon, apparemment, les usines, elles continuent de tourner. Mais après, tu as des boîtes comme McCain qui ont perdu 75% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils travaillent dans la restauration collective. Et à la différence de la grande distribution, où là, les ventes explosent. Donc, c'est un peu tout en nuance, cette histoire. En fait, il y a des gros perdants et puis il y a des gros gagnants. Tu peux prendre aussi Amazon d'un côté. T'as de l'autre côté, les petites librairies. Alors, elles commencent à s'organiser. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le site librairie.com. Alors, le consommateur, il a peut-être aussi là un rôle à jouer.
On voit qu'il y a de grandes disparités de situation entre des entreprises, mais c'est aussi le cas pour les individus, avec de très fortes inégalités, bon, qui existent déjà, hein, inégalités sociales et économiques. Mais là, les inégalités face à cette crise sanitaire sont exacerbées, sont renforcées. Tout d'abord, il y a ceux qui doivent aller, qui sont dans l'obligation d'aller travailler alors qu'ils se mettent en danger de contamination avec le virus. On peut penser bien sûr au personnel soignant dans les hôpitaux, aux caissiers et caissières de supermarchés, aux livreurs, livreuses, etc., etc. Et donc, tous ces travailleurs qui sont très utiles, qui sont indispensables pour avoir une activité économique minimale, eh bien, se retrouvent au premier poste face au risque de contamination, alors que ce sont des gens qui ont des conditions de travail qui sont précaires, qui sont difficiles, et qui ont très souvent de faibles salaires.
Ouais, la situation des femmes, elle est particulièrement préoccupante parce que on peut rappeler des chiffres là encore. Hein. Bon, en 2011, ça date un peu, mais les ordres de grandeur sont les mêmes. 90,4% des aides-soignants étaient des femmes. 97,7% des aides à domicile dans les EHPAD, les assistantes maternelles. Et si la part des femmes parmi les caissiers a diminué ces dernières années, elle représenterait encore 78,5% d'entre eux, ou 88% des infirmiers. Et puis, moi, je pousse un coup de gueule parce que j'ai entendu un truc hallucinant à la radio, c'est des infirmières qui se retrouvaient avec des mots sur leur pare-brise de bagnole ou dans leurs appartements, avec prière de vous garer ailleurs au vu du risque de contagion ou d'essayer d'habiter ailleurs. Enfin, c'est vraiment obscène, quoi. Donc, continuons de les applaudir et de les remercier de sauver nos vies.
Et on voit que cette crise sanitaire, en fait, exacerbe les inégalités de ressources économiques et sociales. Alors déjà que en sociologie, notamment quand on regarde la sociologie des grands bourgeois, faite par Pinson et Pinson-Charlot, les deux grands sociologues qui ont analysé la bourgeoisie en France, ils observent déjà que les bourgeois ont tendance à s'isoler socialement du reste de la population. C'est-à-dire qu'ils vont habiter dans des grands appartements, dans des châteaux, des villas, des grandes demeures qui les mettent à distance du reste de la population. Donc, il y a une forme de distanciation physique, sociale qui est déjà réalisée par ces grands bourgeois. Et dès qu'ils sortent de chez eux, ils vont aussi dans des lieux qui leur sont réservés, dans des coins VIP, dans tel événement culturel ou tel événement sportif, etc. etc. Et donc là, avec la crise sanitaire, ils ont d'autant plus de ressources pour réussir à se confiner dans des conditions matérielles qui sont relativement confortables. Donc, en fait, la crise ne permet pas une union sacrée autour des Français et autour du fait qu'il faut résister à la crise, mais ça, on voit que la mobilisation des ressources est très inégalitaire entre les classes sociales. Bon, cette situation de confinement, on n'a pas forcément les mêmes ressources pour la subir ou pour la vivre correctement, on va dire. Mais en tout cas, c'est la seule option qui a été utilisée par le gouvernement parce que il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de tests, il n'y a pas assez de lits. Donc, le but du jeu, c'est évidemment d'éviter les contaminations et d'éviter que les gens soient affectés par ce virus. Donc, en gros, tout le monde chez soi. Et donc, on peut se poser la question, mais pourquoi y a-t-il aussi peu de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, de lits en réanimation pour pouvoir protéger les gens et pouvoir les soigner dans les hôpitaux? Et il faut peut-être faire un petit rappel de ce que j'ai déjà expliqué dans l'épisode sur l'économie des hôpitaux. C'est que, grosso modo, depuis 15-20 ans, sont appliquées de nouvelles politiques en France qu'on appelle du New Public Management. Alors, c'est un concept qui vient des États-Unis, comme son nom l'indique, et qui vient des années 90. L'idée principale, c'est qu'il faudrait gérer les services publics comme des entreprises. L'idée centrale, c'est qu'il faut gagner en efficacité pour que chaque euro dépensé permette un bon service public. Donc, on comprend l'idée d'efficacité, de moindre coût, etc., etc. Mais ça s'est surtout traduit en France par une baisse des dépenses et des ressources, notamment dans les hôpitaux publics. Là, c'est le sujet qui nous intéresse le plus. Je vous donne un exemple très simple. J'ai appelé une amie qui est médecin dans un hôpital à Paris et qui a malheureusement été contaminée par le virus il y a une quinzaine de jours. Donc, elle m'a un peu expliqué comment ça s'est passé. Et quand elle a commencé à tousser, à avoir un peu de fièvre, déjà, elle s'inquiétait. Alors, ce n'était pas encore le début du confinement, donc certains minimisaient encore la portée et la dangerosité de ce virus. Mais en tout cas, elle prévient sa direction et réponse de sa direction, « Ah ben écoutez, madame, on n'a pas assez de masques, mais je pense que d'ailleurs, ce n'est pas très grave cette toux et cette fièvre, c'est sans doute une petite grippe, continuez à soigner vos patients. » Donc, l'hôpital a admis que avant même que la crise soit grave, ils n'avaient pas assez de masques, ils l'ont obligé à travailler alors qu'elle présentait des signes inquiétants de contamination. Donc, elle a utilisé un masque personnel sur ses frais personnels pour protéger ses patients, mais elle a quand même soigné une centaine de patients en étant malade. Alors, elle essaie de les protéger, mais elle sait pas si elle en a contaminé un ou deux au passage, quoi. Donc, on voit qu'il y a ce new public management, c'est une gestion des ressources à court terme, à très court terme, à courte vue.
Alors ouais, il est évident qu'il va falloir à un moment dresser les comptes. Moi, je me rappelle H1N1, évidemment, et dans un avis rendu public ce mardi, l'Académie de médecine, elle affirme que justement en 2009, avant cette pandémie qu'on attendait, l'État avait un stock de 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de masques des fameux FFP2 qui sont plus protecteurs. Donc on peut se demander ce qu'ils sont devenus, pourquoi on ne s'est pas organisé pour réaliser plus de tests. Bon, ça pose la question aussi de la sous-traitance des produits médicaux de l'autre côté de la planète. Et puis la question du nombre de lits en réa. On parle de quoi ? 25 000 lits en Allemagne contre 7 000 chez nous ? Notre système de santé, il est pourtant vanté par tous.
Ouais, la question que je me pose quand j'entends ces chiffres que tu viens de donner, c'est mais quelle vision ont-ils du management dans les sphères de la haute fonction publique qui a décidé de prendre ces mesures de gestion des hôpitaux publics ? C'est-à-dire que le management, c'est quand même une science qui est sérieuse, qui est compliquée et qui et on peut pas faire n'importe quoi avec le management. Je prends un exemple dans une entreprise. Par exemple, une chocolaterie. Ben, il y a deux moments importants dans l'année où vous vendez plein de chocolat. C'est à Noël et c'est pour Pâques. Donc, vous avez des très grandes variations de production. Et donc, vous devez faire attention dans votre chocolaterie de produire suffisamment pour faire toutes ces ventes à ces deux périodes d'année. Et donc, à d'autres périodes où vous vendez pas beaucoup, ben, vous avez des capacités de production qui sont pas utilisées. Vous avez des stocks qui sont pas utilisés. Donc, bref, vous gérez ces variations de production en ayant du stock et des machines non utilisées. Ben, c'est pareil pour les hôpitaux, en fait. Vous avez, pareil, des variations dans les soins. Vous avez des jours dans certains services d'urgence des hôpitaux où vous n'avez pas beaucoup de patients, tout d'un coup, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, un accident de la route, et vous avez 20 blessés qui arrivent d'un coup, ou un acte terroriste, 150 blessés qui arrivent d'un coup, ou une épidémie, et tout d'un coup, vous avez des centaines et des milliers de patients qui arrivent. Et donc, en fait, si on fait du bon management, c'est tout à fait normal dans des hôpitaux d'avoir des stocks, d'avoir de masques, de gants, de gel et d'avoir des lits en plus. C'est la moindre des choses. En tout cas, là, la crise, elle met clairement en valeur cette idée qu'il est important d'avoir une bonne gestion de nos ressources matérielles et humaines dans les hôpitaux publics. Et alors, on pourrait dire que c'est facile de faire ce constat maintenant qu'on est en pleine crise, mais pour rappel, les personnels soignants, médecins, infirmiers, infirmières critiquent les baisses de dépenses dans les hôpitaux publics depuis des mois. Ils font grève depuis des mois en réclamant des ressources, en réclamant des lits, en réclamant de bonnes conditions de travail et même de bons salaires pour les personnels soignants tels que les infirmiers, infirmières. Donc, si on aurait quand même pu les écouter et prévoir autrement les crises à venir plutôt qu'avoir cette gestion très néolibérale de nos services publics hospitaliers.
Après, les épidémies, on est censé en avoir tous les 100 ans. Et puis, on est une société qui marche par retour d'expérience. Tu vois, en Asie, ils ont eu le SRAS et nous, on a eu H1N1 et on n'en a pas tiré les mêmes conséquences. Après, c'est vrai que la durée de la grève des urgentistes, il y a un an et demi, les manifestations devant la mairie de Lille, aux urgences de la Timone à Marseille, ça se rappelle cruellement notre mémoire.
Alors la question que tu évoques, c'est est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? Faisons un peu de politique fiction. Si on avait eu suffisamment de ressources matérielles, humaines, dans nos hôpitaux publics, avec des tests, des masques, des gants, des gels d'hélix, etc., etc., est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? La réponse est probablement oui, en fait. Si on avait pu tester le plus grand nombre, et d'ailleurs c'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, si on avait pu tester le plus grand nombre de gens, on aurait pu repérer très rapidement quelles sont les premières personnes contaminées, les mettre en situation de confinement strict, tester les gens qu'ils ont fréquentés juste avant d'avoir été testés positivement pour savoir s'il y a eu une propagation de ce virus dans les cercles proches de ces gens-là. Et le reste de la population, on aurait pu leur fournir des masques, des gants, pour qu'ils puissent se protéger de l'éventuel virus et pour qu'ils puissent continuer à aller travailler, éventuellement se divertir, sortir, etc., etc., pour éviter d'être contaminés. Et donc, l'économie aurait pu tourner normalement, enfin presque normalement, et on aurait pu éviter ce confinement général. Alors, il y a des pays où ils auraient réussi à faire ça parce qu'ils avaient suffisamment de ressources matérielles. Il y a la Corée du Sud, Taïwan et Hong Kong, c'est un peu les trois exemples qui ont mis en place ces mesures de test général de tout le monde pour ne confiner que ceux qui sont véritablement contaminés. Le confinement général est la seule solution qui nous était possible étant donné nos faibles ressources matérielles et sanitaires. Et donc, il y a une crise sanitaire, mais cette crise sanitaire est amplifiée par une crise économique que nous avons mal préparée à cause de toutes les politiques néolibérales de baisse des ressources matérielles et humaines dans les domaines de la santé. Donc, il ne s'agit pas de faire mon gaucho de service, hein, mais quand on regarde strictement l'enchaînement des faits, c'est clairement la baisse des dépenses dans les hôpitaux qui a conduit à cette crise économique qui est en train d'arriver en ce moment.
Bon, évidemment, on peut rêver de conditions idéales, refaire le film, mais en attendant, on est surtout en face d'un énorme défi logistique pour nos économies. Déterminer qu'est-ce qui est utile pour la nation, comme a dit le président. Et on redécouvre en effet l'importance des services publics, de l'éducation, le ramassage des poubelles. Dans la métropole lilloise, on a lancé un mouvement pour coller des dessins avec des cœurs sur nos poubelles. L'importance aussi de l'approvisionnement alimentaire, énergétique, et puis des choses auxquelles on ne pense pas, l'élagage des arbres pour éviter les dysfonctionnements électriques. La sociologue Dominique Méda, elle a écrit que la crise allait nous obliger à réévaluer l'utilité sociale des métiers. Alors, on peut l'espérer, je ne pense pas qu'on pourra s'extraire de la loi de l'offre et de la demande, mais on voit ici que la crise, elle rebat les cartes entre les activités qui sont utiles, qui sont vitales, et puis les activités qui sont superflues.
Oui, effectivement. Alors, essayons de voir un peu quelle va être l'ampleur de la crise économique à venir. Donc, on a 15 jours derrière nous, on voit que certains secteurs sont très touchés. Mais de manière générale, de manière globale, quel va être l'effet sur la croissance ? Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers une récession, hein, puisque clairement, la consommation va baisser. On ne peut pas sortir de chez nous pour aller acheter des biens dans des magasins. L'investissement des entreprises va baisser. Donc, on se dirige clairement vers une grosse récession. Mais alors, de combien ? Bon, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on a des premiers chiffres ?
Le gouvernement a annoncé un recul de 1% du PIB, mais certains économistes y parlent déjà d'une baisse de 5%. On est clairement entré en récession. Et la question clé maintenant, c'est celle de la durée avant tout et puis du rebond possible. Alors où on parle, tu l'as dit, l'INSEE vient de dire que l'économie tournait à hauteur de 65%. Apparemment, on a l'industrie qui tourne à hauteur de 25%. Puis d'autres secteurs, alors comme les usines, l'agroalimentaire, le secteur de l'emballage, l'assurance et la banque tournent, elles, à plein régime, voire davantage. Alors les travailleurs sont désormais autorisés à travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Après, si dans 15 jours, il y a des gens malades un peu partout, il y a une deuxième vague de contagion en Chine, en Corée ou chez nous, ça changera complètement la donne.
Certains imaginent même qu'il faudra peut-être, pour conserver les fonctions vitales de l'économie, avoir recours à des services civiques obligatoires, notamment dans l'agriculture, par exemple, ou alors peut-être aussi aller plus loin dans la gestion de l'accès aux ressources avec des tickets de rationnement pour éviter que des gens achètent beaucoup trop de pâtes ou de PQ, avec, si possible, des livraisons à domicile. Alors, est-ce qu'on ira aussi loin ? J'espère pas, mais en tout cas, ce genre d'outils pourrait être utilisé par les États.
Ouais, avec l'effondrement des bourses, il y a évidemment la Fed, la Banque centrale américaine, qui a annoncé une action massive. Elle a injecté la semaine dernière 1500 milliards de dollars sur le marché monétaire. Trump, il a donc annoncé un plan de relance de 4000 milliards de dollars. Et en l'absence d'un système de chômage partiel et d'assurance sociale aux États-Unis, il a par exemple dit qu'il enverrait des chèques de 1000 dollars par adulte et 500 dollars par enfant. Bon, après, chez nous, on a 45 milliards qui ont été annoncés par le ministre de l'économie, mais aussi 156 milliards en Allemagne, dans un pays qui est par exemple hostile à la dette publique, on le sait. C'est pour cela que certains économistes parlent du fait qu'il faudrait des mesures vraiment exceptionnelles. Bah, concrètement, en temps de crise, la Banque centrale, elle abaisse généralement ses taux de refinancement auprès des banques pour faciliter le crédit. Bon, là, les taux, ils sont plus bas. Hein. De ce côté-là, il n'y a pas trop de marge de manœuvre. Après, la Banque centrale, chez nous européennes, elle peut aussi racheter des titres, comme les créances pourries qu'elle a rachetées avec la crise des subprimes. Pour éviter que le cours des titres s'effondre, que les taux d'intérêt s'envolent. Elle peut racheter des titres privés, mais aussi des titres de dette publique, comme elle l'a déjà fait. Et là, évidemment, au vu de ce que l'État met sur la table, se pose carrément la question du financement direct par la BCE de ses dépenses. Seulement, les traités l'interdisent. Alors, c'est très technique tout ça, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu des premières annonces qui ont été perçues comme décevantes de la présidente actuelle, Christine Lagarde, et puis qu'elle a finalement annoncé un rachat de 750 milliards de titres. Bon, à titre de comparaison, après l'enchaînement des crises subprimes et des dettes souveraines, l'ancien président Draghi avait injecté 2600 milliards entre mars 2015 et fin 2018, soit l'équivalent du montant du PIB français. Alors, selon Bruno Tinel, l'économiste que j'ai appelé hier en Angleterre, où d'ailleurs les mesures de confinement ont été, on le sait, très tardives et ça lui fait craindre le pire, l'erreur de la BCE, comme de nos gouvernements, c'est aussi d'annoncer un montant plutôt que de dire garantie illimitée.
Et est-ce qu'on pourrait pas aller encore plus loin et peut-être repenser notre système de production? C'est on se dirige quand même vers un scénario catastrophe de forte récession. Est-ce que c'est pas le moment de réfléchir à faire autrement, notamment vis-à-vis de l'urgence environnementale qui est en lien bien évidemment avec l'urgence sanitaire? Et donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir relocaliser des services essentiels pour qu'il y ait une production nationale française? Sans pour autant tomber dans un protectionnisme dangereux, par exemple? Ou encore, est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser nos systèmes de production agricole, d'élevage, pour éviter qu'il y ait ces contaminations des animaux aux hommes?
Mais si notre économie s'en remet, va-t-on pour autant la repenser? Si notre économie ne coule pas, qu'en sera-t-il pour les pays émergents? Quid de l'Europe? Ira-t-on vers plus de fédéralisme? Bon, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Après l'urgence sanitaire, est-ce qu'on va pouvoir aussi repenser l'urgence environnementale? Alors, mon fils qui a 10 ans, il est persuadé qu'avec cette crise, c'est la nature qui nous dit stop. On surinterprète peut-être, mais en attendant, je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, en janvier dernier, des chercheurs ont découvert dans un glacier du plateau tibétain 28 virus inconnus. Et selon beaucoup de scientifiques, la fonte de ce genre de glacier ou du permafrost, et des thermes gelés près des pôles, eh bien, ça risque de libérer bien d'autres agents pathogènes.
Alors, c'est pas forcément très rassurant comme nouvelle, mais bon, si on les découvre en avance, on va pouvoir peut-être trouver des vaccins en avance ou des façons de soigner tout ça en avance. Donc, bon, c'est la fin de l'épisode, on va s'arrêter là. On n'a pas pu répondre à toutes les questions parce qu'on est encore au début de l'épidémie, au début de la crise. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réflexions, Laurine. J'espère qu'on a apporté quelques éclaircissements sur les questions qui concernent la crise économique qu'on est en train de vivre. Et surtout, mais surtout très important, prenez soin de vous, restez chez vous. Et puis, on se retrouve, j'espère, très bientôt pour un nouvel épisode de Splash. À bientôt.
Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare, rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabag, animée et écrite avec Laurine Melka, produite par Nouvelles Écoutes, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et coordonnée par Marine Rowe, mixée par Charles de Silla. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendus dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast, et nous prenons toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.